Et bienvenue au royaume de la pourriture cet après-midi pour un grand bain dans la décomposition de la matière vivante. Et à notre générique, toutes les créatures qui se transforment au fil du temps, les levures, les bactéries, les moisissures en tout genre. Avec mes invités biologistes, sociologues, réalisateurs, nous allons découvrir les différents mécanismes qui entrent en action dans la pourriture. Et c'est l'occasion aussi de comprendre pourquoi nous éprouvons de la répulsion ou de l'attirance pour la putréfaction. Toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Avec le mot-clé « l'attaque ». C'était il y a 20 ans, jour pour jour, trois amis spéléologues découvraient par hasard la grotte Chauvet, classée depuis au patrimoine mondial de l'UNESCO. Christian Hiller faisait partie du trio. Il est aujourd'hui à la une de la science. Il sera en ligne avec nous dans un instant pour nous raconter ce jour qui a bouleversé sa vie, mais également la bataille juridique qui se joue actuellement autour de la grotte. Violaine Ballet réalise cette nouvelle Tête au carré qui a été préparée par Gabriel Bennett et Olivier Monod.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Geneviève Anoury, Joël Dupont et Pierre Boisard, bonjour à tous les trois. Bienvenue, vous êtes nos spécialistes pourriture aujourd'hui donc pour ce dossier de la Tête au carré. Geneviève Anoury, un fruit, un légume ou un bon vieux camembert en putréfaction, ça vous met dans tous vos états?
Dans tous mes états, oui.
C'est comme ça qu'a commencé la série que vous proposez sur Universcience TV?
Oui, j'avais commencé à regarder des fruits, je trouvais vraiment que ça ressemblait à des planètes, ces petits fruits pourris.
Ah oui?
Et j'ai commencé à faire des photos... une exposition, et puis petit à petit j'ai continué parce qu'il y avait vraiment un monde à découvrir comme ça dans l'infiniment petit.
Quoi. Ouais. C'est, donc grâce à vous, on peut pénétrer vraiment au cœur de cet univers tout à fait particulier. Joël Dupont, les moisissures, c'est votre quotidien. Hein.
C'est mon quotidien.
Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai? Et vous vous portez très très bien d'ailleurs,
oui,
je peux en être le témoin. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement?
Eh bien, je suis donc professeure au Muséum d'Histoire Naturelle et je m'occupe de systématique des moisissures. C'est-à-dire que je cherche à délimiter les espèces, à les classer et à comprendre un petit peu leur lien de parenté. Et puis évidemment, je m'intéresse à leur biologie.
Ouais. Et il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Elles sont
il y en
très,
a beaucoup
nombreux.
Et on en connaît très peu.
Oui. Et elles ont un rôle très important dans le vivant. Hein.
Oui.
C'est ce qu'on verra aussi avec vous. Pierre Boisard, face à la putréfaction. Alors c'est vrai qu'on a des attitudes parfois assez contradictoires. Un camembert ou un maroilles, ça peut déclencher au fond plusieurs types de réactions. Hein.
Oui, ça peut déclencher tout simplement le dégoût, surtout si on ne sait pas d'où vient l'odeur.
C'est ça. Mais quand le fromage est planqué, on trouve que ça sent pas bon.
Oui, on trouve que ça sent pas bon, que ça sent carrément mauvais. Donc on est dégoûté. Mais en revanche, si on sait d'où ça vient, eh bien, on peut aimer ça. Et vraiment, mais sans mettre, comme on dit, plein la lampe.
Oui.
Donc il y a une répulsion, mais il y a aussi une attirance pour les produits pourris.
Voilà, avec des facteurs culturels hein, qui entrent évidemment en jeu, des causes psychiques, anthropologiques, très intéressantes à explorer donc également autour de cet univers de la pourriture. On va en parler ensemble dans quelques instants et avec les questions des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». C'était le 18 décembre 1994, Jean-Marie Chauvet révélait aux médias la découverte de la grotte qui allait porter son nom et c'est aujourd'hui à la une de la science.
L'impression sur le moment est très vive, mais l'ampleur dépasse le bonheur qu'on peut avoir. On réalise après, une semaine après, que c'est vraiment important. Et puis c'est vraiment une découverte qu'on ne peut pas espérer dans une vie. Quand ça vous arrive, c'est indescriptible.
Voilà la voix de Jean-Marie Chauvet avec à ses côtés donc en décembre 1994, Eliette Brunel et Christian Hiller qui mettaient le pied pour la première fois dans la grotte Chauvet-Pont-d'Arc et qui découvraient donc ces peintures rupestres uniques au monde. Christian Hiller, vous êtes donc l'un des trois protagonistes de cette histoire fabuleuse. Vous êtes en ligne avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes découvreur, mais le terme exact, c'est inventeur, hein, c'est ça?
Oui, alors le terme inventeur est le terme juridique. Hein, c'est la loi qui le dit. C'est la loi du 27 septembre 1941. Voilà.
Et vous avez mis la main justement sur un véritable trésor du patrimoine humain. Racontez-nous comment d'abord vous avez découvert cette grotte Chauvet le 18 décembre 1994.
Alors là, bon, ce sont des instants forts, très forts et magiques. Hein, bon. Quand on arrive dans la première salle, on avait installé une échelle spéléo, on est arrivé au pied de cette échelle, et là, on sait déjà qu'on a fait une belle découverte sur le plan spéléologique. Ça brille partout, c'est grand et en plus ça continue. Bon, on avait de petites frontales, mais bon, on voyait très bien que on était sur quelque chose d'important. Et après, de suite, on a eu un problème, c'est qu'on marchait sur des zones argileuses et d'autres qui étaient cristallisées, qui brillaient de tous les feux, quoi. Et donc, on s'est déchaussé quand on marchait sur les zones cristallisées. Et par contre, on remettait les chaussures dans les zones argileuses. Et tout occupé à ça, on n'a pas vu des points. Là, on est passé à côté de points, à quelques mètres de points, qu'on aurait dû voir, qu'on n'a pas vu parce qu'on était occupé à marcher un peu, à faire attention où nous marchions. Et puis après, c'est Eliette qui, à un moment donné, s'est rapprochée d'une paroi. Et là, elle a vu deux petits traits à l'ocre rouge. Et là, elle a eu deux mots qui résonnent encore dans nos têtes. C'est « ils sont venus ». Et ils sont venus, on savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, ok, il y a des hommes préhistoriques qui sont venus, qui ont fait quelque chose, qui ont peint quelque chose. Mmh. Et à peine prononcé ces mots, on se retourne, qu'est-ce qu'on voit? Paf, un rhinocéros, un mammouth. On se retrouve finalement dans un autre environnement, dans un autre contexte de la spéléo. On passait à ce moment-là, on est passé dans la préhistoire. Voilà.
Et alors donc, vous faites cette découverte de la grotte Chauvet en chaussettes. Et donc, vous passez au début, c'est ça qui est incroyable, à côté des fresques, et vous les découvrez au fur et à mesure. Vous pressentez immédiatement l'ampleur de cette découverte, justement, Christian Hilaire.
Ah oui. Vous savez, quand une fois qu'on a vu ces deux petits traits et qu'on a commencé à avoir des petites représentations qui ne payaient pas trop de mine, on a compris qu'il pouvait y en avoir d'autres. Alors après, le regard change. Vous regardez plus les parois que les sols. Ben, puis après, c'est la révélation, vraiment la révélation. La première, moi, ce qui m'a le plus frappé au départ, c'est la présence de rhinocéros. Le rhinocéros n'était pas représenté dans les gorges jardins jusque-là. Il était inconnu. Bon, c'était comme ça. Mm-hmm. Et de suite, on a pensé que c'était vieux. C'est plus vieux que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, parce que ça voulait dire que le rhinocéros avait disparu déjà il y a 20 000 ans, et que ceux qui avaient peint dans les autres grottes n'avaient pas connu le rhinocéros, alors que eux, bien sûr, ont cohabité avec le rhinocéros, puisqu'ils l'ont dessiné, voilà.
Oui, donc c'était déjà une façon de dater, hein, cette grotte.
Ben, nous, c'est ce qui nous est venu à l'esprit, parce qu'on connaissait, on avait déjà eu l'occasion de faire d'autres découvertes, et puis d'être en relation avec les archéologues, donc voilà, ça nous est venu à l'esprit. Bon, c'est une anecdote, mais c'est ce qui nous est venu à l'esprit, quoi.
Et donc la date maintenant retenue, entre 33 000 et 29 000 ans, hein, pour la grotte Chauvet, plus ancienne que Lascaux. Qu'est-ce que vous éprouvez ensemble, à tous les trois? On imagine, vous avez le cœur qui bat, non, au milieu de tous ces dessins extraordinaires que vous êtes les premiers à découvrir, hein.
Oui, justement, vous faites bien de le dire. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, vous savez, quand on voit qu'il y a des suites, que ça continue, on est plutôt fébrile, on presse un petit peu le pas. Ben là, pas du tout. Là, pas du tout. On sentait comme une sorte de présence et on avait une retenue inhabituelle. Voilà. Et je me rappelle que lorsqu'on est arrivé devant la frise des chevaux, ça a été bien sûr un bouleversement, mais surtout il s'est passé une chose, c'est que on a suivi le regard des chevaux, et quelques mètres après, on est tombé sur ce qu'on appelle la stèle, qui est un crâne d'ours qui a été posé sur un bloc. Alors de suite, l'esprit évidemment s'anime. Est-ce que c'est un simple geste d'un gamin qui aurait posé ça sur le bloc, ou un véritable culte? On ne sait pas. Mais ça m'a impressionné. L'ensemble m'a vraiment impressionné. Quoi.
Pourquoi la grotte ne porte que le nom de votre camarade Jean-Marie Chauvet?
Alors, ça, nous l'avons décidé d'un commun accord, et parce que le matin, Jean-Marie a dit, si on retournait là-bas, c'est une zone qui est favorable. En plus, on sera à l'abri du Mistral, parce qu'en plus, nos ancêtres, je pense, devaient aussi observer qu'ils étaient bien dans ce coin-là. Et en fait, on a marqué le coup, on a dit, écoute, elle s'appellera Grotte Chauvet, elle s'est appelée Grotte Chauvet.
Voilà, parce qu'il a insisté, hein, évidemment. Sans lui, vous ne seriez pas retourné là-bas et vous n'auriez pas découvert, donc probablement, hein, toutes
on l'aurait l'aurait peut-être pas fait, on l'aurait peut-être fait, on l'aurait peut-être jamais fait, on n'en sait rien. En tous les cas, ça s'est passé comme ça, et voilà.
Ouais.
Bon. Et puis on a respecté, voilà, donc voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre explication.
Christian Hiller, cette découverte donc il y a 20 ans aujourd'hui même, c'est aussi, on peut le dire, 20 ans de galère juridique. Vous devriez être associé à l'ouverture de la réplique de la Grotte Chauvet en avril prochain, mais trois spéléologues vous contestent le titre d'inventeur de la Grotte Chauvet. Ça, c'est vraiment le mauvais côté hein, de cette histoire.
Oui, bien sûr, mais ça, c'est déplorable. Je vous explique, il y a plusieurs, problèmes. Déjà, bon, vous savez qu'il y a un syndicat mixte qui s'est créé, justement, pour faire la restitution de la Grotte Chauvet, qui est donc une émanation du Conseil général de l'Ardèche et de la région Rhône-Alpes. Et en 2000, il a été créé en 2007 et en 2009, il a commencé par nous subtiliser nos marques. Il nous a volées, tout simplement, et il ne voulait pas nous les rendre. Donc déjà on a eu ce problème là. Je passe toute la première partie qui a conduit donc à un tribunal de pénal pour fond d'écriture, je vous raconterai tout à l'heure. Mais là on se retrouve aujourd'hui avec donc cet organisme là qui a nous a subtilisé les marques. Mmh. On a nous évidemment été au tribunal parce que on savait plus que faire. On attendait le dernier moment d'ailleurs pour y aller. Et puis pof, un jugement a eu lieu qui nous a donné raison. Donc le syndicat mixte a été condamné pour fraude à nos marques et fraude à nos droits. Bon, partant de là, deux mois après, ils ont payé un huissier pour prendre les déclarations de nos détracteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui nos détracteurs, ce sont des gens qui se réclament donc inventeurs de la Grotte Chauvet. Donc ils ont payé un huissier pour faire les déclarations. Voilà. Et ça c'était donc au mois de septembre 2013. Bon, jusque-là, ok, la déclaration, nous, personne ne nous a prévenu, on en a entendu parler comme ci, comme ça, puis finalement, on se retrouve l'année dernière donc avec une négociation qui n'a pas abouti, qui a été rompue par le syndicat mixte, et ils en ont profité pour changer le nom de l'espace de restitution. Au lieu de s'appeler Grotte Chauvet Pont d'Arc, s'appelle Caverne du Pont d'Arc.
Voilà. Bon, de toute façon, Christian Hiller, parce que malheureusement, le temps file, et on n'a pas le temps de détailler effectivement toutes les procédures en ce moment, mais c'est vrai que...
J'ignorais, je serais allé plus vite alors.
Non, mais je vous en prie, mais c'est vrai que juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes encore, évidemment, en ce moment, en train d'essayer de vous battre. On garde de toute façon cette histoire extraordinaire que vous nous avez racontée. L'histoire également qui est racontée dans ce livre, la découverte de la Grotte Chauvet Pont d'Arc, parue aux éditions Equinox et qui revient vraiment sur ses premières images et ses premières émotions. Et puis aujourd'hui, on le sait, la fresque des lions, une grande partie donc de la réplique a été révélée. Elle sera ouverte donc en avril 2015. Elle a été dévoilée aujourd'hui en avant-première. Merci infiniment.
Est-ce que je peux dire
oui,
juste,
très vite.
Juste, mais très vite. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation est anormale en ce sens que le syndicat mixte refuse de nous associer aujourd'hui parce que soi-disant, ils découvrent qu'il y aurait d'autres inventeurs. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans le cadre de la loi, on respecte la loi et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il devrait y avoir, on devrait être associé, il y a pas, c'est la loi qui l'impose, on doit être associé et après, on doit être donc associé avant l'ouverture de l'espace de restitution. Et si ce n'est pas le cas, ben ma foi, je crois que ça sera une restitution qui démarrera dans l'illégalité. Voilà.
Bon, ben Christian Hiller, on va suivre ça de près alors. Merci en tout cas.
Merci d'avoir pris tout ce temps. Merci.
Merci d'être venu aujourd'hui. Vous étiez à la Une de la Science. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité, l'espérance de vie mondiale qui a augmenté de 6 ans en 23 ans. Selon une étude britannique publiée dans The Lancet et portant sur 188 pays, l'espérance de vie moyenne dans le monde est passée de 65,3 ans en 1990 à 71,5 ans en 2013. La France est bonne figure avec une espérance de vie au-dessus de la moyenne avec 82,1 ans. Un nouvel outil pour détecter l'ADN détérioré. Des scientifiques de Lyon ont mis au point une nouvelle méthode physico-chimique permettant l'analyse d'échantillons d'ADN qui étaient jusque-là trop altérés pour être repérés par la méthode classique. Cette méthode agirait comme une canne à pêche à ADN, selon les auteurs de l'étude. Canne à pêche qui pourrait avoir des applications en paléontologie, dans le domaine médico-légal ou en cancérologie. Et puis enfin, la revue Nature propose une rétrospective de l'année scientifique avec les images les plus marquantes. On peut découvrir par exemple la photo rare d'un poulpe-éléphant. Cet animal marin a été photographié à 200 mètres de profondeur en avril dans le golfe du Mexique. Cette image sélectionnée par Nature est à voir sur le site de La Tête au Carré. Tous pourris aujourd'hui dans le dossier, ce sera dans un instant. Kiss Prince sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Décomposition, putréfaction, dégradation. Les mots qui accompagnent la pourriture sont sans appel. Elle nous répugne. Et pourtant, si on prend la peine de l'observer, elle peut être belle. Elle peut être fascinante. Et quoi qu'on en pense, elle est indispensable. Sans elle, sans les millénaires d'activité incessante de ces micro-organismes, ces êtres vivants si petits en taille et si grands en nombre que sont les bactéries, les moisissures, les levures, les animaux microscopiques, toute autre forme de vie serait impossible.
Voilà, extrait de la série documentaire La nuit du vivant avec la tête au carré qui vous emmène donc à la découverte de ce domaine. C'est vrai, fascinant, de la pourriture, on va voir ça ensemble. Pour nous guider sur ces sentiers mouvants, justement, Joël Dupont, professeur au département de systématique et évolution du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, spécialiste de la biologie des moisissures. Pierre Boisard, donc vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS dans l'unité mixte de recherche institution et dynamique historique de l'économie et de la société à l'ENS Cachan. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, entre autres sur le camembert. Et puis Geneviève Anoury, vous venez de réaliser donc cette série La nuit du vivant, que l'on peut voir sur le site d'Univers Science TV et qui explore donc la pourriture dans toutes ses facettes. Joël Dupont, on parlait de la grotte Chauvet en démarrant l'émission. Il y a un lien direct avec la moisissure, puisque vous avez travaillé, vous, sur Lascaux. Il y a eu de vrais problèmes, d'ailleurs, à ce sujet-là.
Oui, j'ai travaillé sur la grotte de Lascaux, où il y a eu quelques accidents dus à des moisissures. Il faut dire
c'est une véritable inquiétude pour la grotte.
C'est une inquiétude.
Toujours. Et
oui. Actuellement, les contaminations sont stables, apparemment. Oui. Et il faut dire que ces écosystèmes sont très mal connus, en fait. Et dès qu'on les modifie un petit peu, modifie l'équilibre.
Voilà, une grotte donc qui est fermée pendant des milliers d'années. Et puis tout d'un coup, donc, on fait entrer de l'air, on fait entrer des organismes vivants. Oui. Et là, ça modifie complètement le milieu.
Ça peut modifier le milieu, effectivement.
Oui, avec la création, donc, le développement de moisissures.
Le développement de petites taches de moisissures qui peuvent être effectivement dangereuses pour les peintures, qui peuvent altérer les peintures.
Avec un processus qui va très très vite.
Très vite et en même temps très lent, puisqu'il ne fait pas chaud dans une grotte, donc les moisissures se développent pas si rapidement que ça.
Mais, enfin, mais par rapport à la tranquillité de ces milliers d'années, c'est vrai que le processus a été quand même assez rapide.
Évident, c'est visuel.
D'où évidemment l'obligation de fermer ces grottes au maximum. Parce qu'on ne peut pas les laisser ouvertes avec cette détérioration. Geneviève Anoury, La nuit du vivant. Donc, c'est une série de 21 petits films scientifiques au cœur de la pourriture, racontée par Denis Lavant. Comment est-ce que vous êtes intéressé, vous, à ce thème justement de la décomposition de la matière vivante?
Alors oui, moi, disons que je ne sais pas très bien pourquoi à l'origine, mais... Quand j'ai commencé à regarder ces choses-là, ça m'a vraiment emmenée. Et quand j'entendais justement Christian Hilliard parler de la découverte de la grotte, le fait d'arriver comme ça dans quelque chose de sombre, qu'on découvre au fur et à mesure qu'on le regarde, ça résonnait complètement avec mon expérience, disons, où à travers la vue, comme ça, j'ai vraiment, pendant de longues heures, regardé comme ça la pourriture. Et du coup... il y a vraiment une beauté qui ressort de ça. Il y a une beauté qui sort du fait de la proximité, mais aussi de l'aspect scientifique, c'est-à-dire de savoir toutes les choses qui se passent en réalité, apporte vraiment à la beauté de la chose.
Ouais. Et c'est un monde assez peu exploré,
Oui, et qui est même mis au rebut. Enfin, quand j'en parlais, les amis me disaient... Oh. Alors après, les amis commençaient à dire « Tiens, je pense à toi, j'ai un citron pourri dans mon frigo, est-ce que tu peux... » Je recevais des boîtes avec des cadeaux de frais pourris magnifiques dans des très beaux papiers. J'adorais ça, oui.
Et donc, après, il fallait le filmer, bien sûr. Donc mettre en place un dispositif technique qui permette vraiment d'aller dans ce monde microscopique.
Voilà. Donc, au départ... Il y a eu, disons, deux façons de filmer là pour la série. J'ai fait des séries de photos, de macro-photos, donc qui sont à la taille visuelle habituelle de l'œil, mais très très près. Et puis, donc ce n'est pas exactement des films que j'ai fait, ce sont des séries de photos, et ensuite j'ai utilisé un logiciel qui interpole des images. Donc on est un peu comme une petite mouche qui s'approcherait et qui survolerait le fruit. Ouais. Il y a des petites saccades, alors avec un son de mouche, c'est assez amusant. Et puis j'ai fait beaucoup d'images au microscope, soit avec des chercheurs, donc il y a eu Clément Vulin et Naïma Belgaret-Touzé, avec qui j'ai fait des images donc assises à côté d'eux avec leur microscope. Mais il y a aussi, j'ai utilisé ce qu'on appelle un cell scope. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore beaucoup parce que ça a été inventé par des chercheurs ingénieurs de Berkeley. Et au départ, c'était fait pour des médecins. Mais moi, je l'ai utilisé donc pour faire ce documentaire scientifique. C'est un microscope relié à un smartphone, ce qui m'a permis de faire des images vraiment tout le temps chez moi.
Ah oui, c'était à la maison, le labo chez vous.
Ouais. Voilà, parce que comme c'est tout petit, j'éclairais ça avec une mini maglite. J'avais parfois même des tout petits bouts de papier de couleur pour faire des reflets. En plus, le microscope, en fait, qui est de très bonne qualité, qui renvoie une image dans le smartphone, crée des petits artefacts avec les lentilles de couleur, et ça fait vraiment un très bel effet de vitrail. Enfin, vous pouvez voir sur le site.
Voilà, et sur les films, c'est le résultat obtenu.
On rentre vraiment dans un monde qui est comme un petit paysage, et donc l'idée c'était ça, c'était de changer d'échelle et d'entrer comme si on était dans un paysage, comme si on était une toute petite personne.
Voilà, ce sont vos fresques à vous, au fond, qu'on peut découvrir donc sur Universcience TV. Les films sont évidemment en lien sur La Tête au Carré. Jean-Paul nous dit ceci sur franceinter.fr. Le pourri, c'est ce qui n'est plus consommable par telle espèce au cours de la décomposition de l'aliment potentiel. Donc le pourri est tout relatif. Une viande trop faisandée que notre organisme juge répugnant paraîtra un régal absolu pour une hyène charognarde qui passe par là, évidemment. Pierre Boisard, c'est exactement votre sujet, ça.
Oui, c'est ce qui est intéressant, c'est justement le rapport à la pourriture de la part des humains, et en particulier la viande. En fait, ce que dit Lévi-Strauss à propos de ça, c'est que la cuisson est une transformation culturelle de la viande, alors que la pourriture est une transformation naturelle. Mais en réalité, on mange de la viande, en tout cas maturée, même faisandée, etc. Le tout est de pouvoir maîtriser cette putréfaction. Mais ce qui est important, c'est que en se transformant, la chair de l'animal devient une viande, n'appartient plus à une espèce vivante. Et donc, ça autorise les humains à consommer de la chair, alors qu'ils sont d'une espèce animale également, parce que ça n'est plus de la chair vivante, c'est de la viande, c'est quelque chose qui peut se manger.
Ouais. Joël Dupont, alors ces moisissures que vous avez tout autour de vous, ce sont des champignons, c'est le monde des champignons finalement.
Ce sont des champignons microscopiques.
Ouais. Donc vous avez participé au film également. Oui. Alors comment vous avez travaillé ensemble justement pour parler de ce que vous observez vous tous les jours au muséum?
Alors, j'ai beaucoup aimé travailler avec Geneviève sur ce documentaire. Et donc, je lui ai expliqué en particulier comment se développaient ces moisissures, comment elles arrivaient sur le fruit, comment elles allaient pouvoir se développer à partir d'une petite spore et fabriquer leur mycélium pour aller puiser les éléments. Donc, on a beaucoup parlé de science, effectivement. On a beaucoup essayé de comprendre. J'ai essayé de démontrer comment se nourrissent ces organismes, comment ils se reproduisent, comment ils vont aller contaminer un autre fruit. Donc c'était l'occasion pour moi aussi de pouvoir expliquer les moisissures, parce que finalement je crois qu'on les connaît assez mal.
Oui.
Et c'est dommage.
Oui. Et alors on apprend des choses tout le temps à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous cherchez au fond?
Alors on cherche plusieurs choses. On cherche à la fois à en découvrir davantage, parce qu'on n'en connaît que 5%. Donc c'est vraiment
5%
rien.
De moisissures,
5% de champignons seraient connus, et donc 1,5 million d'espèces à découvrir, c'est énorme. Donc on cherche toujours évidemment à en découvrir davantage, et maintenant on a des outils très efficaces pour le faire, c'est la métagénomique, l'accès au génome des champignons. Et puis ce que je fais aussi, c'est de comprendre leur biologie, leur évolution.
Oui.
Et on travaille en ce moment en particulier sur la domestication des champignons, des fromages.
Ah tiens, et pourquoi faire alors?
Pour essayer de comprendre comment l'homme les a un petit peu obligés à s'adapter à des substrats qui n'étaient pas les leurs au départ.
Ouais. Et c'est absolument indispensable dans le monde vivant, justement, ce processus de moisissure, de pourrissement, de putréfaction.
Oui, certainement. Si les bactéries et microbes en général, moisissure, levure, n'étaient pas là, on serait certainement submergé par la matière organique
morte.
Oui. Ah oui.
Donc ça fait un nettoyage extraordinaire.
Ça fait
un
nettoyage, ça recycle. Oui. Ça recycle la matière organique.
Geneviève Anouri, oui, c'est la vertu principale au fond. Hein.
Oui, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment une succession d'organismes qui se nourrissent chacun en suivant l'autre. Quoi. Il n'y a vraiment aucune niche n'est laissée comme ça. Tout est consommé, tout est recyclé. Il n'y a vraiment pas de vide dans la nature.
Ouais. Qu'appelle-t-on une viande faisandée, demande Jean à l'instant sur franceinter.fr. Pierre Boisard, alors.
Alors, c'est une viande qui a été laissée dans un endroit quand même assez frais, hein. Mm-hmm. Donc, mais qui a commencé un processus de pourrissement, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça apporte, ce pourrissement ? Ben, ça apporte que la viande devient plus tendre et qu'elle gagne de la saveur.
Ouais, mais ça, les bouchers
Les bouchers continuent à le faire. Ouais. Il faut savoir que la viande qu'on consomme tous les jours, si on en mange tous les jours, elle a passé parfois plusieurs semaines, voire pour certains bouchers, plusieurs mois dans un frigo. Donc, à une température qui va entre 0 et 2 degrés. Donc, c'est quand même pas... Il y a un développement, ça permet le développement de bactéries.
Allez, bienvenue au royaume de la pourriture. Vos messages franceinter.fr.
Pas de nouvelles de toi depuis au moins 2 mois. Es-tu vivante ou t'es-tu perdue au bout de la rue? Envie de tout, envie de rien, méchante envie, petit matin. J'ai coupé le son, c'est fini. J'ai vu partir les musiciens. Jour de fatigue au bord du froid. Y a trop d'intrigues autour de moi. Certains disent que t'es loin, d'autres ne disent rien. La lune est claire, les nuages. Il y a du gaz dans ma mémoire. Dans le vague, sur la plage, je sais plus qui faut croire. Feux follets du cimetière vont encore miroiter ta robe. Et l'acrobate, mon ange gardien, essaye aussi de faire son job. Envie de tout, envie de rien, mais j'entends envie, petit matin. Mon col lourd, ayez pitié. J'ai trop aimé pour être aimé. J'ai trop sué sous la pluie. J'ai aussi trafiqué l'ennui. Le cœur en émoi. Sur le goudron, je lis des signes qui me parlent de toi. Sur le sol. Sur Brooklyn, des oiseaux chantent au-dessus des ruines. Où que tu sois, oh mon amour, j'espère que tu vis bien. J'ai misé gros sur le tapis, j'ai trop donné, on m'a tout pris. Chaque journée,
chaque journée dure une vie quand on vous oublie. Chaque journée devient la mort quand on vous oublie.
Extrait de son dernier album, Méchante Envie. Charlie-Lee Couture à l'instant sur France Inter. Vous écoutez La Tête au Carré. Nous baignons dans la pourriture et la moisissure et on se trouve extrêmement bien avec nos invités Geneviève Anoury, Joël Dupont et Pierre Boisard et vos messages qui viennent nous réconforter quand même un petit peu sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Larry nous dit ceci. Une orange ou une pêche en putréfaction peut être belle, mais la pourriture ne touche pas que les végétaux. Et là, ça se gâte, effectivement, hein, Geneviève Anoury. On le voit avec la viande, d'ailleurs, oui, dans la série.
Hein. Voilà, il y a un épisode sur la viande, l'épisode 18. Et c'est vrai que bon, j'ai laissé pourrir de la viande. Alors, ça sentait vraiment très, très mauvais. Et il y a eu quelques plans qui ont été vraiment difficiles à faire. Quand je suis allée, donc c'était c'est Hugo Desnoyers donc, qui a été le conseiller pour cet épisode. Mmh. Et quand je suis allée donc, dans le frigo prendre des images, j'étais étonnée de voir quand même des moisissures. Ça faisait comme une petit pelage d'un centimètre quoi, à certains endroits où la viande est exposée à l'air. Et c'est très habituel pour lui. Enfin, il passe la main dessus, il sent si c'est de la bonne moisissure. Il sait tout de suite à l'odeur si c'est le champignon qu'il faut. Et la viande est ensuite coupée 3 cm en dessous des moisissures. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est que tous ces restes de viande, tous les côtés en fait, qui ont été exposés à l'air, sont jetés dans ce qu'on appelle le bac à suif. Et ensuite, le boucher doit payer en fait, pour que ce soit pris par des compagnies de produits de beauté. C'est utilisé ensuite pour ça.
C'est vrai ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
Je crois que c'est les matières quoi, qui servent aux produits de beauté. C'est
ragoûtant. On y pensera.
On est dans un paradoxe constant, en fait, avec cette chose-là.
Il y a un Américain qui s'est amusé, lui aussi, à faire moisir, on pourrait le dire, des hamburgers. C'était dans le film Super Size Me. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. C'était il y a 10 ans, tout juste. Et on écoute l'extrait, justement, qui concerne cet aspect de la putréfaction.
10 semaines sur le Big Mac. Mon Dieu. Regardez le chicken McGrill. 10 semaines sur le filet au fish.
Oh,
c'est quoi ce duvet là-dessus? Semaine numéro 10 pour ce hamburger. Il y a une sorte de petite expérience très excitante qui se passe par là. Vous êtes prêts pour les frites? Regardez ça. Quel est le problème avec les frites? Il
n'y
a même pas un tout petit champignon, il n'y a rien qui se défait, rien du tout. On dirait qu'on les a achetés hier.
Oui. Alors ça, c'est inquiétant, justement, parce que elle, la pomme de terre, justement, ce hamburger, ça ne pourrit pas.
Oui, moi,
et ça, c'est mauvais signe. Hein.
C'est très mauvais signe. Moi, je n'ai utilisé exprès que des choses bio, en fait, au départ, parce qu'il y a non seulement la vitesse de la moisissure, mais la diversité. C'est-à-dire que quand vous avez une tomate, par exemple, qui n'est pas bio, on va dire, vous la laissez au frigo, ça peut durer 2 mois, il ne se passe rien.
Oui.
Si elle est bio, elle va avoir plein de couleurs de moisissures, il va y avoir toutes sortes d'explosions de couleurs.
Alors, Joël Dupont, Pierre Boisard, justement, ça c'est vrai que c'est un mauvais signal envoyé par ces pommes de terre.
Oui,
Qu'est-ce qui se passe alors? C'est les produits chimiques?
Probablement. Moi, quand je vois dans mon frigo des pots de crème ou des jus de fruits, il y en a peu, généralement, qui ne moisissent pas, ça m'inquiète beaucoup. Je suspecte des antifongiques, des choses comme ça.
Pierre Boisard.
Oui, alors on retrouve là, à travers ce film, l'obsession des Américains pour l'hygiénisme. Ils refusent absolument que leurs aliments soient habités par des vies microscopiques. C'est une obsession. Donc on va passer. Bon, il y a cette histoire des poulets qui sont passés à l'eau de Javel. Il faut absolument que ce qui est ingéré n'ait plus aucun rapport avec la vie.
Oui. Donc ça, c'est la culture, la religion aussi, qui a ce rapport très étrange avec la moisissure, la putréfaction.
On peut associer ça aussi au puritanisme américain. Pour moi, puritanisme et hygiénisme sont les deux faces d'une même médaille. C'est vraiment le refus de ce qui va se transformer, échapper au contrôle. Il faut avoir un contrôle total, à la fois du sexe, c'est-à-dire que dans certaines normes, et puis de l'hygiène. Tout ça va ensemble.
Un message d'Annick, une anecdote drôle, dit-elle en rapport avec votre émission. Je rentre chez moi, je remercie mon coloc pour avoir fait les courses. Stupéfaction de sa part, ce n'est pas le cas. J'insiste, car j'ai bien remarqué l'odeur alléchante d'un bon vieux fromage. Mais je passe d'un appétit marqué à un profond dégoût quand je me rends compte en fait qu'il s'agit simplement de l'odeur de ses pieds. Et c'est vrai qu'on peut faire vraiment un parallèle entre les deux. Hein. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs entre le fait de consommer un fromage et de sentir des pieds?
Ben alors c'est effectivement le paradoxe de cette odeur qui peut être à la fois alléchante et répugnante hein, par rapport au fromage, mais aussi par rapport à d'autres produits faisandés. On a cette répulsion et cette attirance. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on arrive à vaincre la répulsion, eh bien, on va ingérer quelque chose et... il va y avoir, on va lever une inhibition, c'est-à-dire on va transgresser un interdit qui est de manger du pourri. Oui. C'est un interdit qui est très profondément inscrit dans la civilisation et dans l'éducation qu'on reçoit. Mais néanmoins, il y a des petites passerelles qui permettent de transgresser cet interdit. Et la consommation du fromage, la viande faisandée et d'autres produits, le Nuokman aussi, qui sont des produits faisandés, ce sont des possibilités de transgresser un interdit, donc il ne faut pas s'en priver.
Ouais, Joël Dupont, ces odeurs justement de pieds, c'est quoi? Ce sont les bactéries précisément qui sentent aussi fort et qui transportent avec elles l'odeur du fromage, par exemple, qu'on a mangé avant?
Oui, oui, tout à fait. Ce sont souvent les bactéries qui, en dégradant les protéines, produisent des arômes alors qui ne sont pas toujours des arômes fleuris. Hein. Mm-hmm. Et donc, ce sont elles qui sont souvent responsables de ces odeurs de pieds.
Oui, Marc demande, qu'est-ce qui sent mauvais dans les matières organiques en décomposition, alors, pour prolonger là-dessus?
Souvent, ce sont les protéines décomposées, hein, ce sont des arômes particuliers.
Geneviève Anoury.
Oui, les scientifiques, en fait, j'avais interrogé par exemple Françoise Irlinger qui me parlait, qui qualifie les odeurs des fromages, elle travaille sur les fromages de pieds, ail, poireaux, oui. Banane, bon aussi, quand c'est un peu plutôt le début.
Oui, on parlait tout à l'heure des planètes avec vous, hein, vous disiez ce monde microscopique de la pourriture, ça me rappelle des petites planètes.
Oui, tout à fait.
Et récemment, la comète Chury aussi s'est rendue célèbre. Voilà, s'est rendue célèbre pour son odeur. Hein.
Oui, elle sent l'œuf pourri et le crottin de cheval. Et ce qui est amusant, c'est qu'on cherche, enfin, on se demande s'il n'y a pas les briques de la vie. Donc, est-ce que la vie et l'odeur de pourri, voilà.
Déjà, au départ.
La vie purée.
Marie nous dit ceci, c'est une devinette. Je vis dans les moisissures, par les moisissures et pour les moisissures. Qui suis-je, à votre avis? Une fromagère fermière, tout simplement. Ah, ça, oui. C'était un petit message pour notre amateur de camembert, Pierre Boisard. Joël Dupont, à partir de quand, expliquez-nous comment démarre justement ce processus de moisissure dans le monde vivant, alors? Il y a un moment où il y a une espèce de touche on qui est pressée ou pas?
Vous voulez dire le développement de la moisissure sur un substrat?
Voilà. Oui. Quand est-ce que ça commence? Alors, exactement.
Pour commencer, il faut qu'il y ait une petite spore qui vienne se poser sur ce substrat. En fait, des spores, il y en a partout. Hein. Il y en a plein dans l'air. Mm-hmm. Et donc, quand elle se pose et que les conditions atmosphériques, d'humidité en particulier, température, mais d'humidité surtout, sont adéquates, elle va germer. Développer un mycélium qui va commencer justement à envahir la petite planète et à la creuser. Et ce mycélium, il peut s'insinuer dans la matière. Ça, c'est vraiment très avantageux pour le champignon, hein, de pouvoir s'insinuer et aller chercher la nourriture. Et puis, donc le champignon se nourrit par le biais de son mycélium. Hein, il absorbe des molécules simples. Et puis après, lorsqu'il aura un peu épuisé ce milieu, il va reproduire à nouveau des spores qui seront libérées, dispersées par l'air ou par l'eau ou par des petites bêtes, par les acariens par exemple. Et puis à nouveau, le cycle va pouvoir se reproduire.
Est-ce qu'il y a des milieux plus favorables justement à ces champignons pour leur développement?
Les champignons ont besoin d'humidité pour se développer. Ceci dit, ils ont besoin de moins d'humidité que les bactéries finalement, puisqu'on en trouve à 75% d'humidité, ce qui est relativement sec. Hein. On peut trouver des moisissures sur des biscuits, des noix, des choses très sèches, jusqu'à 95% d'humidité. On a toute une palette d'espèces.
Et qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui favorise la vitesse de propagation de ces moisissures? Là aussi, c'est le milieu, le contexte dans lequel elles peuvent se développer.
C'est le contexte, effectivement. Hein. Et puis, bon, il y a des moisissures qui sont plus compétitives que d'autres, hein, qui s'installent.
Super moisissure.
Voilà, tout à fait, qui sont très, 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 très méchantes et très bagarreuses hein, vis-à-vis des autres, qui poussent plus vite et qui produisent davantage de sport. Enfin, il y a tout un tas de stratégies
méchantes, mais très utiles aussi, du coup, pour nous débarrasser. Absolument. C'est ce qu'on disait, toutes ces matières mortes hein, que vous évoquiez tout à l'heure en début de dossier. Gilles nous envoie un message pour dire qu'en Polynésie, il existe une recette de poisson qui s'appelle le fafaro. Ça consiste à mettre un certain type de poisson dans un bocal d'eau de mer, de le laisser pendant un mois. Ça pue, c'est une horreur, nous écrit Gilles. Mais c'est un mets apparemment très, très apprécié. Et d'autres messages d'ailleurs sur des mets particuliers ou sur des fruits. Connaissez-vous le kombucha, demande Olivier. Pierre Boisard, le kombucha, ça vous évoque quelque chose ?
Oui, je sais que ça a été à la mode il y a quelques années, mais je crois, mais c'est un champignon, il me semble. Donc
c'est Joël. C'est pas une algue. C'est
un petit cocktail. Je pense que c'est un cocktail de thé, bactéries, champignons,
et d'algues, algues, comme l'algue kombu,
oui,
sûrement.
Ou cyanobactéries, peut-être, je sais pas trop.
Et ça, c'est thé.
Voilà. Sur le thé, voilà, qui fermente le thé.
Et ça se boit beaucoup en Russie, paraît-il, ou en Chine. Oui. Hein, très peu chez nous, mais on peut le préparer pendant le disque, si vous voulez. On pourra le déguster juste après.
Still sleeping with all those dreams in your pretty head. I light a fire while the sun comes creeping. Snowman's melting. Nothing can bring him back now. His smile a twig and his nose a cucumber. His eyes two pine cones looking out. Of him, like little kids laughing in the snow, we were walking hand in hand. We went looking for a big surprise, and we found before our eyes two white elk grazing on. Heard the honkers coming, landing on the lake of summer, nesting there and waiting for a dream.
Neil Young avec All Those Dreams sur France Inter. Voilà cette série La Nuit du Vivant à découvrir sur Universcience TV. Geneviève Anoury, vous êtes à l'origine de cette série donc on peut voir en ce moment, ces petits films, 21 de 3 minutes. Vous auriez pu rencontrer quelqu'un de très célèbre pour cette série documentaire. Parce que moi, quand j'ai pensé à ce dossier sur la pourriture, immédiatement, je me suis dit, ah ben tiens, il y avait Amélie Nothomb, hein, qui est très connue pour puisqu'elle aime beaucoup, paraît-il, les fruits et les légumes pourris. D'ailleurs, on va la retrouver dans une archive qui date de 2000, où elle l'explique.
Vous mangez de la pourriture végétale, ça vous le...
Mais ça, c'est très joli et c'est très bon.
Vous êtes pourritophage, en fait.
Oui.
C'est-à-dire
que
je...
Mange
dans les poubelles.
Non.
Vous mangez quoi ? quand je
vous
me
laissez pourrir les aliments.
Quand je me nourris moi-même.
L'apéro, lui, ça lui arrive tout le temps, mais c'est parce qu'il est sur un bateau.
Mais justement, comme j'ai des problèmes de conservation à bord, ça m'intéresse.
Des végétaux pourris, pour des raisons gustatives, parce que je trouve ça.
T'achètes de la salade et tu la laisses moisir.
J'achète des fruits, je les oublie, et six semaines plus tard, ils commencent à devenir bons.
Ah oui, parce que là, on les oublie pas, à l'odeur, on les retrouve.
Mais j'ai une salle prévue pour.
Pour ça, c'est vrai. Étonnant.
On voit bien la réaction que ça suscite, hein, finalement. Hein. Complètement marginal, Amélie Nothomb, dans son adoration du fruit pourri, Pierre Boisard.
Oui, c'est marginal, ça inspire le dégoût en général. Bon, mais on voit qu'on peut en manger. Enfin, apparemment, Amélie Nothomb se porte bien.
Régale, puisqu'elle s'en régale, puisqu'elle a une salle spéciale.
Et puis, elle n'est pas malade, donc ça n'est pas dangereux.
C'était au moment de la sortie de Stupeur et Tremblement. Geneviève Vanoury.
D'ailleurs, dans le poème de D.H. Lawrence, il en parle, hein, de manger les sorbes pourries. Enfin, il y a des fruits, d'ailleurs, qu'on ne peut consommer que pourris. Mais oui, moi, je comptais écrire à Amélie Nothomb parce que je voudrais faire un livre et je voulais lui proposer de faire la préface. Et d'ailleurs, avec une amie modiste, on est en train de lui faire un chapeau de fruits pourris.
Oh, bah dites donc, ça va être sympa.
On est en train de faire sécher, pourrir, enfin des choses, voilà, pour elle.
Bon, bah c'est
un
scoop.
On sait qu'elle aime les chapeaux.
Vous lui apprenez.
Voilà.
Joël Dupont, justement, ces moisissures, il faudrait qu'on les regarde autrement, parce qu'on a quand même un lien de parenté avec elle. Hein.
Ouais,
très important.
Et oui, finalement, les moisissures sont plus proches des animaux que des végétaux, comme on a longtemps cru. Hein. Et bon, en fait, évidemment, elles ne sont pas proches de l'éléphant, mais de petits animaux microscopiques qui probablement avaient un ancêtre commun avec les moisissures.
Ouais. Donc c'est le club des eucaryotes, tout ça,
c'est
en fait.
C'est le club
fait,
des
hein.
eucaryotes.
Donc voilà, ça peut nous permettre de les envisager un petit peu autrement peut-être.
De les apprivoiser.
Ouais. Fromage, question fromage. Mathieu nous dit ceci. Est-ce que l'aseptisation des fromageries garde la possibilité de moisissures de qualité, justement, sur les fromages, Pierre Boisard?
Alors, ce qui se passe en fromagerie industrielle maintenant, c'est qu'on essaie de maîtriser absolument tout, les phénomènes de fermentation. Donc, on va éliminer dans un premier temps tout ce qui est bactéries, micro-organismes en pasteurisant le lait à très haute température. Et puis ensuite, on va le réensemencer avec des micro-organismes qui ont été élevés en laboratoire. Donc, on espère par là avoir un très bon contrôle de la fabrication. Donc, on va gagner effectivement en productivité, mais on va perdre effectivement en qualité, en surprise même. Parce que ce qui est intéressant dans la fabrication fromagère, en tout cas ce qui me passionne, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Et on va avoir une variabilité des fromages. Et ça qui est intéressant, je trouve, c'est-à-dire de goûter le fromage, se dire, tiens, il n'a pas le même goût que la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ça, bon, c'est un peu le sel de la terre, je dirais, le sel de la vie.
Joël Dupont, vous avez publié une étude qui dresse justement un panorama des moisissures présentes dans une centaine de fromages grâce au séquençage de l'ADN.
Oui, alors nous, dans cette étude, nous avions surtout participé à l'isolement et à l'étude, effectivement, des souches que nous avaient fournies les fromagers, d'ailleurs. Et parmi ces souches, une espèce nouvelle a été décrite, pas chez nous, hein, chez nos collègues de l'Université de Brest, comme quoi on ne connaît pas tout, même sur nos fromages français. Et donc, on a, oui, pu décrire une diversité importante.
Geneviève Vanoury.
Oui, je pensais aussi au vin, parce qu'avec les vins naturels, il se passe la même chose. La biodiversité, en fait, de chaque parcelle de vigne donne un goût particulier. Et le goût particulier vient des levures et de la diversité des levures qui se trouvent, qui vont se retrouver ensuite dans la cuve et qui vont donner même chaque année un goût légèrement différent au vin. Et voilà, il y a un épisode là-dessus, d'ailleurs. Ouais.
Anita nous dit ceci. Quid des smile mould? Est-ce une moisissure comme son nom anglais le suggère?
Et ce n'est plus classé parmi les champignons.
Pourquoi?
Parce que d'après leur génome, ils sont éloignés. Ils sont plutôt vers les protistes, en fait.
Et c'est compliqué d'étudier les moisissures en laboratoire, Joël Dupont?
Oui, c'est compliqué parce que beaucoup de moisissures, et c'est certainement pourquoi on les connaît si peu, ne se cultivent pas, en fait. Beaucoup ont des relations très étroites avec d'autres organismes vivants, et ceci n'est pas reproductible en laboratoire, et donc d'où la difficulté de les appréhender. Alors maintenant, on a des méthodes. Voilà, maintenant on a des méthodes d'exploration massive par le séquençage global de l'ADN, mais ceci dit, on n'a pas l'organisme.
Brigitte nous dit ceci, à force de faire mon jardin et notamment un compost, j'ai contracté une aspergillose, est-ce que je le prononce bien, pulmonaire, due à la présence d'un aspergillus dans mes poumons. Que pouvez-vous m'en dire, demande Brigitte. Ça, c'est une moisissure justement compost qui peut se transporter.
Et oui, effectivement, dans les composts, il y a souvent Aspergillus fumigatus, qui est une moisissure qui peut se développer à 37-40 degrés, d'où son adaptabilité à contaminer le corps humain et à se développer dans les poumons. C'est embêtant, effectivement. Alors, est-ce que la personne en question a une susceptibilité particulière? En tout cas, le compost est très riche. En champignons.
Ça veut dire qu'il faut faire attention.
Thermo. Oui, il faut faire attention
en retournant
le compost même, parce que comme il y a des échauffements dans le compost et ça sélectionne des organismes qui se développent à des températures élevées et qui peuvent donc contaminer le corps humain.
Bon, Geneviève Anoury.
Oui, en fait, ce que j'ai découvert en faisant la série, c'est que dans la terre, il y a vraiment le pire comme le meilleur. Il y a les antibiotiques qu'on trouve dans la terre, la terramycine par exemple, et évidemment les bactéries qui sont dangereuses pour l'homme.
Antoine dit, mes dosettes de café pourrissent avec une sorte de toile d'araignée barbe à papa et font de la poussière quand je les jette. Est-ce dangereux ou pas, Joël Dupont? Docteur Dupont, devrais-je dire, parce que...
Dangereux. Bon, ça peut. Il est pas recommandé quand même de respirer les moisissures. Beaucoup de spores sont allergènes. Et donc, selon la susceptibilité, là encore, on peut déclarer des allergies. Le plus dangereux chez les moisissures, c'est plutôt la fabrication de toxines. Là, il ne va pas manger le marc de café, donc il n'y a pas de risque, mais il faut éviter de respirer quand même.
Georges nous dit, nos confitures ou compotes mal fermées moisissent un peu. Je les ai toujours consommées après avoir gratté le dessus. Oui. Quels sont ces germes que l'organisme supporte bien?
Oui, tout à fait. Moi, je fais la même chose. J'enlève 2 cm de confiture au-dessus du pot.
Et à 2 cm quand même?
Ah oui, parce que parfois, il y a des goûts
un peu particuliers. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, justement.
Et donc, ces belles moisissures, ce sont des eurotiums. C'est très joli, mais très spécifique.
Et puis enfin, Fabrice nous dit, comment fonctionnent les vignettes censées prévenir de la présence des bactéries dans les réfrigérateurs modernes? Pierre Boisard.
Oui, alors je pense que c'est simplement des indicateurs de rupture de la chaîne du froid. Donc ça ne va rien dire s'il y a ou pas des bactéries, mais simplement ça va pouvoir dire qu'il y a eu une rupture de la chaîne du froid.
Allez, on termine avec un témoignage de Martine. J'ai 68 ans. Lorsque j'étais enfant, nous mangeions de la viande très faisandée. Mes grands-pères et pères chasseurs apportaient des bécasses et autres oiseaux qui étaient pendus la tête en bas, et nous attendions qu'une goutte coule du bec pour les manger. C'est ragoûtant. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Geneviève Anoury, Universcience TV, donc avec La Nuit du Vivant. Pierre Boisard, Le Camembert, un mythe français, c'était chez Odile Jacob en 2007. Et puis Le Camembert, 10 façons de le préparer, ça c'est plus récent, aux éditions de L'Épure en 2010. Bon retour à tous les trois, dans vos labos en particulier. Et donc cette série en lien sur le site de l'émission.